Sans plus attendre, nous allons maintenant aborder notre temps, disons, de conclusion. Quelques responsables du Front de Gauche, quelques camarades vont nous faire l'amitié de fermer ce temps du Front de Gauche que nous avons vécu ensemble. J'appelle donc, pour commencer, à la tribune, Christian Pierrel, qui est le porte-parole du PCOF. Merci les amis. Il arrive.
Chers amis, chers camarades, permettez-moi de placer la rentrée sociale et politique du Front de Gauche dans le contexte de la lutte des peuples pour leur émancipation. Et vous l'aurez compris, je veux parler ici du peuple tunisien, du peuple égyptien, qui contribuent par leur combat héroïque à ébranler le vieux monde capitaliste. Ils montrent que quand les peuples se mettent en marche et qu'ils ne s'arrêtent pas aux premières difficultés, aussi immenses soient-elles, ils sont capables de tracer la voie vers leur émancipation. Mais pas seulement leur émancipation à eux, mais la voie de l'émancipation des peuples en général. Et je veux dire ici que contrairement à M. Valls, qui voit dans l'Afrique et les peuples d'Afrique une menace, nous voyons dans ces peuples qui se battent un formidable encouragement pour notre combat et qu'ils sont nos frères de combat. La feuille de route du Front de Gauche pour cette rentrée est déjà bien pleine. Il y a évidemment cette nécessité de développer la résistance à la contre-réforme des retraites. Mais il y a aussi se battre contre les conséquences de l'ANI et de la vague de licenciements qu'ils vont entraîner et que le patronat est déjà en train de mettre en cause dans les petites et les grandes entreprises. Un patronat ragaillardi par les reculs successifs du gouvernement en sa faveur. Je parle des cadeaux fiscaux, bien sûr. Et vous avez entendu M. Gattaz, c'est 100 milliards qu'il réclame d'allègement de charges. Un patronat encouragé dans sa guerre contre les syndicalistes qui défendent les intérêts des travailleurs par le refus du gouvernement de l'amnistie sociale. Alors je le dis clairement, là-dessus, ce n'est pas un solde de tout compte. Là-dessus, on ne lâchera pas. L'amnistie, on continuera à se battre pour l'exiger et pour l'imposer. Et chaque fois qu'un des nôtres sera victime de la répression, parce qu'il défend ses camarades, parce qu'il refuse le chantage au licenciement, chaque fois, nous serons là, à ses côtés. Parmi nos tâches, il y a évidemment une tâche politique importante, la lutte contre la droite. Cette droite, qui, elle l'a déjà annoncé, va continuer à vouloir occuper les rues. Évidemment, saturer les médias. Et ce combat contre la droite est indissociable du combat contre l'extrême droite. Car c'est clair, l'extrême droite va amplifier son travail de mystification, de démagogie nauséabonde, n'hésitant pas à reprendre des thèmes sociaux pour les dévoyer. Là aussi, nous n'avons pas passé l'éponge sur ce qui s'est passé quand la droite occupait les rues, fricotant ouvertement avec des groupes d'extrême droite, et que des fascistes ont tué un jeune. Nous n'avons pas tourné cette page et nous défendons toujours l'exigence de l'interdiction des groupes fascistes. Et nous n'attendrons pas qu'ils commettent d'autres crimes pour l'imposer. Je veux revenir sur le combat contre la réforme des retraites. Je ne vais pas développer dans les détails, d'autres le feront, mais je veux insister sur un aspect. Le gouvernement et sa majorité développe la résignation. Comme ils disent, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a plus. Ils développent une active politique de division des travailleurs et de notre peuple. Et je prends juste un exemple. Quand ils ont vu le potentiel de mobilisation qui commençait à se créer, qu'ont-ils fait ? Ils ont immédiatement dit « Ne vous inquiétez pas, on ne touchera pas aux fonctionnaires. » Voilà, voilà la politique de division. Essayez par tous les moyens de briser le front de résistance pour désamorcer les conflits. Alors, on pourrait même dire que désamorcer les conflits, c'est une des activités principales de ce gouvernement. Il y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens. Et je ne peux manquer de citer à cet effet le travail de M. Montebourg. Il pourrait être qualifié de ministre du désamorçage des conflits sociaux. Mais plus grave, c'est cette question de la division. La division de la classe ouvrière et du peuple, essayer d'isoler les plus conscients, les plus déterminés, pour pouvoir les frapper. Cette politique de division, je le dis, est la marque de fabrique de la social-démocratie passée avec armes et bagages au social-libéralisme. Et sur ce terrain, le terrain du combat pour l'unité, ils nous trouveront face à eux. Parce que pour nous, l'unité des travailleurs, l'unité du peuple, c'est fondamental. Alors, il y a un terrain sur lequel il nous invite, c'est celui de la lutte contre la droite et l'extrême droite. Nous aussi, et je l'ai déjà dit, c'est un terrain important, immédiat et à long terme. Mais ce qu'oublient les dirigeants du Parti Socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, c'est que c'est leur politique. Et ces graves conséquences pour les travailleurs et les masses qui sont précisément le terreau sur lequel la droite et l'extrême droite peuvent gagner des déçus et les capitaliser électoralement. Quand nous disons que les peuples de Grèce, d'Espagne, d'Italie ont raison de se battre contre la Troïka, contre les politiques néolibérales, qu'elles soient Merkel-Sarkozy ou Hollande, Merkel. Quand nous disons que nous sommes solidaires de leur combat, qui est aussi le nôtre, ces mêmes dirigeants du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts nous accusent de faire le jeu de la droite et de l'extrême droite. Honte à eux ! C'est nous qui défendons la gauche, c'est nous qui défendons le peuple, c'est nous qui disons clairement quels sont nos adversaires. Je veux ici préciser un point. Nous ne confondons pas Madame Merkel avec les travailleurs et le peuple allemand. pas plus que nous ne confondons Obama avec les travailleurs et le peuple des États-Unis. Et rappelons-nous, quand nous disons les travailleurs des États-Unis, une grande majorité d'entre eux, ce sont des immigrés qui viennent des pays d'Amérique du Sud. Non, nous ne faisons pas cette confusion. Et si l'opposition de ces travailleurs et de ces peuples, je parle de l'Allemagne, je parle des États-Unis, n'est pas encore suffisamment développée, certes, mais nous n'oublions pas que ce sont eux qui sont les premières victimes de cette politique et que notre premier devoir, c'est précisément d'être solidaires et d'être à leur côté dans leur combat et de développer le nôtre. Car nous savons que pour faire échec à ce grand projet réactionnaire est terriblement dangereux, qu'est le grand marché transatlantique. Nous avons aussi besoin de la mobilisation des travailleurs et des peuples, des organisations de ces pays, que ce soit des États-Unis et d'Allemagne. Nous ne gagnerons qu'ensemble, sinon il y a le risque de gagner les uns contre les autres. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous voulons gagner ensemble ce combat contre le grand marché transatlantique. Et j'ajouterai, nous ne voulons pas non plus que dans ce combat, ce soit les pays du Sud et en particulier d'Afrique qui fassent les frais de ce grand marchandage néolibéral dans lequel les monopoles états-uniens et européens veulent se répartir le gâteau. Je l'ai dit, la feuille de route, elle est pleine. Et certainement, d'autres fronts de lutte vont s'y ajouter. Car les coûts qui vont être portés vont être durs. Et que, de ce fait, les résistances, elles aussi, vont se développer. Nous avons une responsabilité très importante. Nous, qui sommes dans le front de gauche, celle de faire que le front de gauche soit toujours davantage un instrument politique pour la mobilisation ouvrière et populaire, un instrument de solidarité avec les combats des travailleurs et des peuples dans le monde, contre la politique néolibérale et social-libérale. Cette responsabilité nous incombe à nous tous et à nous toutes. Nous n'y arriverons pas si nous ne travaillerons pas sans relâche, avec obstination, sans compter nos efforts, à enraciner le front de gauche dans le mouvement ouvrier et populaire, parmi les jeunes, parmi la majorité de notre peuple qui en a besoin maintenant et qui a besoin de changements concrets et réels dans leur vie toujours plus dure, toujours plus inhumaine. Et aussi pour tous ceux et celles qui aspirent à un changement profond, radical de cette société, nous leur disons, le front de gauche, c'est votre front, il faut s'y engager. Et je terminerai en disant que les raisons pour lesquelles le front de gauche s'est créé sont plus que jamais d'une brûlante urgence. Être toujours plus avec les travailleurs, le peuple, pour qu'ils prennent leurs affaires en main, qu'ils deviennent l'acteur de la transformation sociale, seule issue à ce monde capitaliste en crise, qui enfonce les peuples dans la crise et qui veut les dresser les uns contre les autres. C'est un combat quotidien. C'est dans cet esprit offensif et déterminé que nous allons dans les batailles politiques à venir, notamment dans les prochaines élections municipales et européennes. On les gagnera, on n'avancera que si nous gardons ce cap, défendre le camp des travailleurs, des masses populaires, des peuples. Bref, et je conclurai là-dessus, un front de gauche toujours plus unis, un front de gauche qui s'élargit au mouvement politique et social pour qu'il soit toujours davantage le front politique et social des exploités, des opprimés, pour résister et pour imposer une véritable rupture avec ce système Bref, un front de gauche plus populaire, plus internationaliste.
Merci. Merci, Christian. Je t'invite à t'asseoir. Christian, t'en vas pas. Je t'invite à t'asseoir et à rester avec nous pour la suite. J'appelle maintenant Stéphanie Treillet, qui est la porte-parole de Convergence et Alternative.
Bonjour. J'interviens aussi pour ce regroupement de différentes composantes du Front de Gauche, à l'intérieur du Front de Gauche, dont Clémentine a parlé tout à l'heure. Chers amis, chers camarades, on le sait, la bataille pour défendre la retraite par répartition sera la première bataille majeure de cette rentrée sociale. On nous prépare la quatrième contre-réforme pour continuer à démanteler le système de retraite par répartition. On ne connaît pas encore le projet du gouvernement, qui ne sera dévoilé que le 18 septembre, après une simulacre de concertation avec le mouvement syndical. Mais des pistes probables apparaissent dans la lignée du rapport Moreau, soi-disant pour trouver 7 milliards d'euros à l'horizon de 2020. On les connaît, ces pistes. Un nouvel allongement de la durée de cotisation, que le gouvernement a dit ne pas exclure. François Hollande a dit ne pas l'exclure, même si le Parti socialiste affirme vouloir attendre 2020 pour cet allongement. Une nouvelle désindexation des pensions sur les salaires. Une réforme à la baisse des avantages familiaux. Et, fait nouveau, une augmentation de la CSG des retraités, parce qu'il faut, n'est-ce pas, répartir équitablement l'effort entre les salariés et les retraités, mais surtout pas mettre à contribution le capital et les actionnaires. On connaît ces mesures, mais cette fois, c'est un gouvernement de gauche, c'est un gouvernement à majorité socialiste qui veut la mettre en œuvre, et c'est une première. Cette fois, c'est un gouvernement socialiste qui reprend l'ancienne de la droite et du MEDEF. On vit plus longtemps, il faut donc travailler plus longtemps, dont on connaît l'inanité, mais qui cherche à entretenir la résignation dans la population. Cette fois, c'est un gouvernement de gauche qui emboîte le pas aux médias dans la dramatisation du déficit, alors que le Conseil d'orientation des retraites reconnaît lui-même, dans un rapport de décembre 2012, que ce déficit n'a rien à voir avec l'allongement de l'espérance de vie. Ça fait 50 ans que l'espérance de vie allonge, et c'est une bonne chose. Ce déficit a tout à voir avec la crise, avec le chômage, et donc pour nous, avec les politiques d'austérité menées par ce même gouvernement. C'est un gouvernement de gauche qui veut mener cette dite réforme structurelle pour satisfaire aux exigences de la Commission européenne et des marchés financiers et remplir les exigences du TSCG, du traité d'austérité européen, qu'il a signé à marche forcée à l'automne dernier et contre lequel nous nous sommes mobilisés massivement, et notamment dans la rue le 30 septembre. C'est un gouvernement de gauche, enfin, qui envisage une politique de réduction massive des dépenses publiques, dont on a vu dans toute l'Europe qu'elles ne font qu'alimenter la récession, les inégalités et l'augmentation de la pauvreté. Nous avons le Front de Gauche, mais nous ne sommes pas les seuls, ça traverse tout le mouvement social, tout le mouvement syndical. Nous avons d'autres propositions, radicalement différentes. Sur les retraites, nous disons pas un trimestre de plus, pas un euro de moins. La retraite à 60 ans pour toutes et tous à taux plein. La suppression des exonérations de cotisations sociales patronales qui ne servent à rien sinon à creuser les déficits publics. Il faut prendre l'argent là où il est. Une véritable reconnaissance de la pénibilité du travail, car le patronat doit payer les dégâts dont il est responsable sur la santé des travailleurs. Il faut mettre à contribution les revenus financiers et en finir avec cette explosion des dividendes qu'on a observée depuis 20 ans. Il faut mettre en œuvre non pas un choc de compétitivité comme nous le serine le gouvernement depuis un an, mais un choc de répartition. Le Conseil d'orientation des retraites chiffre lui-même à un point du produit intérieur brut les dépenses nécessaires, les recettes nécessaires pour équilibrer les caisses de retraite d'ici 2020. Mais un point du produit intérieur brut, qu'est-ce qu'on sait? Quand on sait que depuis 30 ans, les salariés, les travailleurs ont perdu près de 10 points du produit intérieur brut à l'avantage du capital. Un point du produit intérieur brut, qu'est-ce que c'est? Quand on sait que ça suppose une augmentation de 2% des cotisations sociales patronales, cotisations sociales qui n'ont pas bougé depuis 1979, qui représentent un tabou intangible. Donc c'est ce choc de répartition qu'il faut mener. Mais bien sûr, cela suppose une volonté politique. Ce n'est pas un problème technique, ce n'est pas un problème purement économique. C'est une question de choix politique, d'affrontement avec la volonté de revanche du patronat qui, lui, n'hésite pas à dire crûment qu'il faut baisser le montant des pensions. Et aussi, c'est une politique plus globale qu'il faut mener. Il faut en finir avec les politiques d'austérité. Il faut en finir avec les politiques de coupure dans les dépenses publiques et il faut enfin augmenter les salaires. Cela a été dit et redit dans plusieurs ateliers à l'occasion de ces assises, mais c'est dit aussi partout dans le mouvement social et syndical. Les retraites sont un choix de société. C'est le refus du travailler plus. C'est le refus de se tuer au travail. C'est le choix de l'émancipation dans le temps libéré. C'est le choix d'une maîtrise collective de la société sur le temps qui sera travaillé. Et c'est le refus de faire de la force de travail cette marchandise que le capital veut soumettre de plus en plus. Et pour cela, il faut d'abord une véritable politique de l'emploi. Il faut une vraie réduction du temps de travail, sans flexibilité, sans annualisation, sans perte de salaire, avec embauche proportionnelle. Il faut l'interdiction du temps partiel imposé qui plonge tant de femmes dans la pauvreté et la précarité. Il faut un vrai statut du travail salarié qui fasse enfin disparaître la menace du chômage. 1 million d'emplois créés, c'est 13 milliards d'euros de recettes en plus pour les retraites. Face à cela, l'urgence pour nous à la rentrée, c'est de mobiliser. Mais mobiliser en proposant une nouvelle alternative à gauche. Comme nous l'avons dit dans tous les meetings et les réunions publiques ces derniers mois de la campagne alternative à l'austérité, il faut aller encore plus loin. Il faut une campagne citoyenne sur les retraites. Il faut que le refus populaire de cette destruction s'incarne dans des collectifs unitaires massifs, dans des centaines de réunions publiques, comme nous avons su le faire en 2010, comme nous avons su le faire en 2005 contre le traité constitutionnel de l'Europe néolibérale. Il faut que le Front de gauche, en utilisant l'outil de l'appel lancé par Attac et la Fondation Copernic pour défendre les retraites, il faut que le Front de gauche soit le moteur d'un rassemblement le plus large possible. Car c'est le rôle de la gauche de s'opposer à cette régression. Car c'est le rôle de la gauche de ne rien lâcher. Et nous devons nous adresser à tous. Ça a été dit précédemment. Dans le Parti Socialiste, dans Europe Écologie Les Verts, c'est le désarroi des militants et de certains dirigeants. C'est le désarroi de certains courants de ces partis qui voudraient qu'il y ait une véritable transformation de la société, qu'ils voudraient qu'il y ait véritablement une autre politique. Et donc, comme nous l'avons fait aux assises du 16 juin, le Front de gauche doit être le moteur pour rassembler le plus largement possible tous ceux qui veulent une autre politique. Nous l'avons dit ici même l'année dernière, le refus du TSCG dessine déjà les contours d'une nouvelle majorité pour une autre politique de gauche. Nous pouvons dire la même chose aujourd'hui à propos de la bataille contre cette destruction des retraites, parce que c'est la même politique. Le refus massif de cette contre-réforme des retraites peut déjà dessiner les contours d'une nouvelle majorité à gauche et nous devons nous y atteler, tous ensemble.
Merci. Merci beaucoup. Merci à toi pour toute cette énergie. Vous indiquez effectivement ce que nous aurons à faire dès la rentrée.